Je m'humilie. Il est doux, il est doux, il est doux, il est doux, l'agneau.
Bonsoir à tous et bienvenue à notre temps d'études bibliques. J'espère que vous nous entendez bien. On n'est pas tout à fait sûr de savoir si vous entendiez bien Daphné tout à l'heure, mais on espère que ça s'est bien passé. Alors, ce soir, j'aimerais qu'on puisse tout simplement continuer un peu la thématique de ce matin lors de nos bénédictions matinales. Comme j'ai dit ce matin, il se peut fortement que je ne sois pas en ligne demain matin parce que j'ai un rendez-vous médical, un petit traitement que j'ai à toutes les 6 semaines. Donc, je ne serai pas là demain matin, fort probablement. Donc, je voulais prendre un peu la balle sur... au vol et continuer donc avec l'étude de ce matin qui se base essentiellement sur Jean 13, mais comme on l'a vu ce matin, le verset qui est mentionné dans Jean 13 au verset 34 va être repris à plusieurs reprises par l'apôtre Jean dans le chapitre 15, puis par la suite dans le premier épître de Jean, et enfin Pierre aussi va aborder la même thématique dans son premier épître, ou dans sa première épître plutôt. Donc, on va ouvrir nos Bibles dans Jean 13, au verset 33. On va lire du verset 33 au verset 35. On va faire un court résumé de ce qu'on a vu ce matin. Et puis, par la suite, on va continuer avec les points 3 à 6, puisque ce matin, on a vu les deux premiers. Mais avant tout, on va prier, demander au Seigneur qu'il puisse nous conduire, nous guider, et être au contrôle de ce qui va être partagé ce soir. Alors Seigneur, nous te bénissons pour cette autre occasion que tu nous donnes d'être rassemblés pour plonger nos regards dans ta parole. Une parole qui est riche, une parole qui est profonde et une parole qui fait du bien à notre âme. Ce soir, Seigneur, ce n'est pas le fruit du hasard qui nous rassemble. Ce n'est pas, Seigneur, les circonstances qui nous rassemblent. C'est même pas une invitation qu'un homme aurait pu lancer pour qu'on se rejoigne en cette soirée de mercredi pour étudier la Bible ou étudier la parole. C'est toi qui nous as fixé rendez-vous. Tu as fixé rendez-vous à ceux qui se joignent en direct, mais aussi assurément à tous ceux qui entendront, qui écouteront ou qui visionneront cette vidéo en différé dans quelques heures, dans quelques jours, voire même dans quelques années. Alors, on demande qu'une même onction soit déversée ponctuellement sur nous maintenant, mais aussi, Seigneur, sur toute personne qui visionnera cette étude avec le temps qui passera. Alors, merci, Seigneur, d'être au contrôle. Merci de nous inspirer et de nous conduire en toutes choses. Nous t'avons prié dans ton précieux et merveilleux nom, dans le nom de Jésus. Amen. Et là où vous êtes à la maison, vous pouvez dire un grand Amen ou vous pouvez aussi l'inscrire sur la zone commentaire puisqu'on est en live sur ou en direct sur Facebook et vous savez déjà vous saluer. Alors encore une fois, bienvenue parmi nous. Ce soir, on va continuer donc notre étude de Jean 13 qu'on étudie le matin habituellement. Lors de nos bénédictions matinales, mais on va faire un petit spécial ce soir et on va continuer la thématique de ce matin puisqu'on s'est arrêté au deuxième point sur le passage du jour. Alors, je lis pour vous dans Jean 13 au verset 33, du verset 33 à 35, mais ayez vos Bibles avec vous parce qu'on aura plusieurs passages à visiter ce soir. Alors, Jean 13, 33 nous dit « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Je relis les versets 34 et 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors que Dieu bénisse sa parole ce soir. Ce matin, comme on l'a étudié, on a parlé tout d'abord du terme « commandement ». Dans tous les passages qu'on va relever ce soir, dont l'autre qu'on a mentionné ce matin aussi, dans 1 Jean 2, on nous parle d'un commandement nouveau. Et assurément, le terme commandement dans l'Ancien Testament, lors de nos différentes études, on a eu l'occasion d'étioler un peu la chose, de l'étudier, de présenter le terme, donc les mitzvahs de Dieu. Ici, on est dans le Nouveau Testament, donc on parle donc du terme entolé ou entolé, qui veut nous parler d'un précepte, d'une charge, d'une règle. Mais pas n'importe quel précepte, des préceptes qui sont donnés pour deux motifs très précis. Premièrement, des préceptes qui sont prescrits en raison de l'office occupé, en raison du rôle qu'on peut jouer dans le corps de Christ en tant que disciple. Jésus va dire « Si vous êtes mes disciples, aimez-vous les uns les autres. » Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous manifestez de l'amour les uns envers les autres, à ce titre-là, tous verront effectivement que vous êtes mes disciples, que vous occupez la position de disciple auprès de moi. Alors, la première raison pour laquelle nous devons effectivement nous aimer les uns les autres au sein du corps de Christ, tout d'abord, mais aussi envers nos prochains, évidemment, c'est tout d'abord parce que nous sommes disciples de Christ. Et Jésus, dans ce chapitre de 13 de Jean, va servir d'exemple à ses disciples, servir d'exemple à ses propres serviteurs en devenant lui aussi serviteur de ses disciples ou serviteur de ses propres disciples. Et Jésus va le déclarer assez fermement dans les premiers versets du chapitre où il va dire « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Alors, je vous ai lavé les pieds pour que vous aussi puissiez pratiquer la même chose. » Ce n'était pas nécessairement du lavement des pieds qu'il parlait forcément ici, mais du fait de se rendre serviteurs les uns les autres. Et dans le premier verset, on disait Jésus qui mit le comble à son amour. Et dans le comble qu'il met à son amour, il y a effectivement de servir ses propres serviteurs, de servir ses propres disciples et de manifester de façon concrète l'amour qu'il avait envers chacun d'entre eux. Et assurément, lorsqu'on continue le texte, on se rend compte que ce paroxysme de l'amour de Jésus, ce point ultime de l'amour de Jésus se manifeste par le fait qu'il accepte qu'il va volontairement et délibérément à la croix pour chacun de ses disciples et pour nous tous. Donc, première raison, pourquoi c'est un commandement? Parce que nous appartenons au corps de Christ en tant que officier dans ce corps, en tant que disciple auprès du Seigneur. La deuxième raison pourquoi entolé est utilisé, pourquoi commandement est utilisé, c'est parce que c'est prescrit de par la lignée qui est nôtre. Si effectivement Dieu est notre Père, il est roi, roi des rois, nous par conséquent comme ses enfants, nous appartenons à cette lignée royale, puisque nous avons été greffés à la famille de Christ, greffés à la famille de Dieu. Donc, par conséquent, nous sommes enfants de Dieu. Et tout prince sur cette planète et toute époque confondue, tout prince a des règles à suivre dans ses comportements, dans ses agissements, dans les pratiques qui sont les siennes. Il y a des activités auxquelles il a le droit, d'autres activités desquelles il doit s'éloigner. Il y a des pratiques qu'on ne peut pas voir chez un prince, qu'on ne doit pas voir chez un prince, et faute de vivre selon les règles propres au statut de prince, un prince peut être destitué de son rang royal, destitué de la monarchie. On le voit actuellement qui se passe notamment en Angleterre. Un des princes qui était là s'est mal comporté et la famille est en train de l'exclure des rôles monarchiques, des rôles royaux qui lui incombaient auparavant. Donc, commandement parce que j'appartiens comme serviteur de Christ, comme serviteur de Dieu et comme disciple. Et deuxièmement, parce que je suis enfant du roi des rois. On a vu que c'était un nouveau commandement, pas dans le sens que c'était quelque chose qui innovait, mais que c'était nouveau parce que ça avait gardé sa fraîcheur. Nouveau, c'était le terme kainos qu'on a vu ce matin, quelque chose qui est frais ou quelque chose qui est inutilisé. Alors, une chose peut être neuve pendant 50 ans parce qu'elle n'a pas été utilisée. Disons que vous achetiez une voiture et que vous la rangiez dans le garage, que vous la protégiez avec une housse. Si quelqu'un vient à découvrir cette voiture dans 50 ans et qu'il soulève la housse, il va se rendre compte que cette voiture est neuve, qu'elle n'a pas été utilisée, qu'elle ne s'est pas usée avec le temps. Et ici, lorsque Jésus va proclamer ce nouveau commandement, il va nous dire, notamment dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 7 à 11, il va nous dire que ce n'est pas un commandement nouveau, mais que c'est en même temps un commandement nouveau. Ce n'est pas un commandement nouveau parce que cette pensée d'aimer son prochain, cette pensée de s'aimer entre frères et sœurs au sein de la famille de Dieu, ce n'est pas un concept nouveau pour Dieu. Dieu n'a pas inventé la chose avec la venue de Jésus sur terre. Ce principe d'amour mutuel, d'amour réciproque, existe de toute éternité. parce que Dieu ne change pas. Et l'amour qu'il nous témoigne, l'amour auquel il nous convie, et l'amour qu'il désire que nous pratiquions, c'est donc un amour mutuel, réciproque, entre enfants de Dieu. Et il nous dit que c'est un commandement nouveau, donc commandement nouveau parce que ce n'est pas un commandement qui a vieilli, parce que ce n'est pas un commandement qui a flétri, comme les choses de cette terre, parce que c'est un commandement sans précédent, parce qu'il n'y en a aucun d'égal à celui-ci. Il n'y a aucun commandement aussi élevé que celui-là. Jésus va nous dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son frère. Et c'est non seulement donner sa vie, donc accepter la mort par rapport à notre frère, mais c'est aussi dédier notre vie à notre frère. On n'est pas obligé de mourir pour donner sa vie. Non, on peut donner notre vie de notre vivant. Et l'amour fraternel auquel nous sommes conviés et invités, c'est donc un amour dans lequel je donne mon existence au profit, je donne mon existence pour le bien de mes frères et de mes sœurs. Et on parle d'un commandement nouveau quand il est aussi potentiellement remis de l'avant. Parfois, on découvre une chose, puis on se dit, hey, c'est nouveau, mais c'est tout simplement quelque chose qu'on avait oublié pendant un certain temps. Et on le ramène à la sauce du jour, on le ramène aux circonstances du jour, et ce faisant, on a l'impression que c'est nouveau, même si c'est quelque chose qui a toujours existé. Et ici, c'est un peu en même temps une critique que Jésus va faire aux croyants de son époque, et assurément, il peut le faire aux croyants de notre époque aussi. Très souvent, on va pratiquer bien des choses que la Bible nous enseigne. On ne va pas voler, on ne va pas tuer, on ne va pas parler mal les uns des autres. Les enfants, potentiellement, vont obéir à leurs parents. Potentiellement, on ne va pas envier ce qui appartient à notre frère ou à notre sœur. On ne va pas commettre l'adultère. On va respecter les 10 commandements. Mais la Bible nous enseigne que si on respectait le fait de s'aimer les uns les autres, si on pratiquait tous l'amour tel qu'il nous est enseigné par la parole de Dieu, à ce moment-là, aucun d'entre nous n'enfreindrait la loi. Aucun d'entre nous n'enfreindrait les commandements. Alors voilà Jésus qui ramène de l'avant une pensée propre à Dieu, une pensée qui devrait être aussi propre à tout croyant et à tout enfant de Dieu, d'aimer son prochain et particulièrement d'aimer et de pratiquer donc un amour concret, tangible envers nos frères et nos sœurs. Troisième point. Et on le retrouve notamment dans Jean 13, oui, au verset 35, où la Bible dit « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si on ouvre nos Bibles aussi dans 1 Jean au chapitre 3, 1 Jean le chapitre 3, du verset 14 à 23, il y a deux passages dans ce court texte que j'aimerais faire ressortir. Dans le verset 14, on nous dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. C'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Deux points importants dans le verset 14 et dans le verset 19. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Et au verset 19, par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Cet amour doit être distinctif. Jésus disait dans Jean 13, il disait que si on s'aime les uns les autres, tous connaîtront que nous sommes ses disciples. Rendu dans l'épître de Jean, Jean va dire, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Donc l'amour de Dieu doit être une marque distinctive pour nous. En tant qu'enfants de Dieu, la chose qui nous marque, ce n'est pas la puissance de nos discours, ce n'est pas la grandeur de nos miracles, ce n'est pas l'éloquence de nos paroles et de nos prédications. La chose qui doit marquer, qui doit caractériser la vie d'un chrétien, c'est l'amour qu'il a envers son frère et sa sœur. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Et de surcroît, nous saurons que nous sommes passés de la mort à la vie. Donc, on saura que nous sommes vivants, on saura que nous sommes sauvés si effectivement l'amour de Christ se manifeste envers chacun d'entre nous. C'est trop malheureux de voir beaucoup de chrétiens qui mettent une emphase toute particulière sur des dons, sur des pratiques ministérielles, sur des choses qui n'émanent même pas d'eux. Alors que ce que nous sommes appelés à pratiquer, c'est un amour concret, tangible, palpable envers nos frères et nos sœurs. Les choses qui vont marquer notre époque, les choses qui vont sauter à la figure des gens qui ne viennent pas à l'église, des non-croyants, ce n'est pas nos beaux discours. Ce ne sont pas nos chants, ce ne sont pas les témoignages de ceci ou de cela. La chose qui distingue un chrétien, c'est l'amour qu'il est supposé avoir. Je dis supposé parce qu'on a effectivement tous du travail à faire en ce sens. Et lorsqu'on se rappelle de la prédication de dimanche, on a vu qu'on est dans une époque effectivement où la division est semée, où la séparation dans le corps de Christ est semée et on a cédé au plan du diable en permettant aux circonstances présentes de venir nous diviser, en permettant aux circonstances présentes de susciter chez nous des discours vindicatifs, des discours de dispute plutôt que des discours, des querelles par rapport à la situation actuelle. Alors que même dans une situation comme nous vivons aujourd'hui, le commandement n'a pas changé. La disposition ou le précepte que Dieu a établi pour nous et que Jésus a légué à ses disciples n'a aucunement changé. Ça reste encore le même commandement, de s'aimer les uns les autres, afin que tous puissent distinguer que nous sommes effectivement disciples de Dieu, enfants de Dieu, et passer du royaume des ténèbres à la présence de Dieu. Passer du royaume du péché, de la condamnation du péché, à une vie menée sous le regard et sous l'approbation de Christ. Quatrième point, c'est la simplicité. La simplicité de ce commandement-là, qui reviennent en plusieurs endroits. Et on va relire chacun de ces textes. Dans Jean 13, Jésus va dire, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. » Dans Jean 15, au verset 12, on reprend le même texte, Jésus qui parle encore à ses disciples et qui dit, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et lorsqu'on saute au verset 17, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Lorsqu'on retourne dans le passage de Jean, de 1er Jean au chapitre 3, dans l'épître de 1 de Jean au chapitre 3, le verset 23 nous dit « C'est ici son commandement. » Jean reprend le commandement de Jésus et dit « C'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. » Et Pierre va rajouter en ce sens, dans 1 Pierre au chapitre 1 et le verset 22, il va dire « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » La question pour toi et pour moi ce soir, c'est à savoir, OK, mais ça veut dire quoi aimer? Et effectivement, tous les passages qu'on vient de lire, aucun d'entre eux n'explique ce que c'est aimer. Pourquoi? Parce que ça devrait être simple. Et c'est très simple pour nous, c'est très facile lorsqu'on applique une règle. La règle qui nous explique que tout ce que nous faisons jusqu'à présent pourrait être meilleur. Alors, je ne sais pas comment tu aimes ton frère et ta sœur, mais je peux assurément te dire que tu peux encore mieux l'aimer. Je ne sais pas comment tu manifestes l'amour de Christ, mais il y a une chose qui est certaine. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait, nous ne sommes pas parfaits, et par conséquent, on peut donc aimer davantage et aimer encore mieux. Voilà pourquoi je dis que c'est simple. C'est simple si nous comprenons que nous pouvons faire mieux et que nous devons faire mieux. Assurément, lorsque tu penses simplement à cette journée qui se termine ce soir, lorsque tu fais le bilan de la journée et que tu relis ce bilan à la question de l'amour fraternel, assurément, tu peux penser à des occasions où tu aurais pu mieux faire, où tu aurais effectivement pu manifester davantage d'amour, ou le manifester de façon encore plus évidente, de façon encore plus palpable et tangible. Et voilà pourquoi je dis que c'est d'une simplicité énorme. Parce que si je me lève demain matin en disant « je dois aimer », je dois m'assurer d'aimer mieux demain que je n'aimais aujourd'hui, en espérant qu'aujourd'hui j'ai aimé un peu mieux que je n'aimais hier. La Bible nous dit qu'on est en progrès constant, que nous devons aller de progrès en progrès. Alors notre amour aussi devrait aller de progrès en progrès. Les gens aiment se compliquer la vie et ce faisant, ils veulent définitions claires, précises, concrètes. Jésus n'est pas allé à expliquer « voici A, B, C, D, E, comment vous devez aimer vos frères ». Il a dit simplement « aimez vos frères ». Il a dit de donner sa vie pour son frère. Donc, vivre notre existence non plus axée sur nous-mêmes, non plus mener une vie où nous sommes les premiers récipiendaires des bienfaits de notre propre vie, mais de mener une vie où c'est l'autre qui reçoit les bienfaits de notre existence. On disait dimanche que c'est un principe biblique et un principe chrétien de base. En fait, toute la théologie de la chrétienté est basée sur l'amour du prochain, sur l'amour de l'autre, et non pas sur l'amour envers nous-mêmes. Le monde contemporain, la société contemporaine a renversé les choses et a voulu nous faire croire que nous ne serons jamais capables d'aimer les autres si on ne s'aime pas tout d'abord soi-même. Et ce faisant, on a été plongé dans une ère, dans une façon de faire nombriliste, où on se regarde à nous avant de regarder l'autre. Prends soin de toi, et quand tu auras assez pris soin de toi, à ce moment-là, tu pourras prendre soin de l'autre. Si on fait ça, on vit selon la pensée de ce monde, on vit selon les coutumes de ce monde, on vit selon les mœurs et les habitudes et les façons de faire de ce monde. Mais si on applique la parole de Dieu, cette parole, à l'instar de l'exemple que nous a donné Jésus, qui s'est donné lui-même volontairement, délibérément pour nous, alors si nous pratiquons le même amour que Jésus a démontré à notre égard, nous donnerons aussi notre vie pour les autres. Voilà pourquoi c'est simple. C'est tout simplement de vivre pour les autres. Et là, vous allez me dire, mais alors qui va penser à moi? Ben, ton frère est supposé penser à toi. Ta sœur est supposée penser à toi. En fait, si chacun d'entre nous, on appliquait parfaitement la parole de Dieu, autant je donne envers mon frère et ma sœur, autant je donne envers le corps de Christ et la famille chrétienne, autant la famille chrétienne est exhortée à donner envers moi aussi. En fait, lorsque Jésus donne ce commandement de s'aimer les uns les autres, il le fait avec cette pensée qu'en s'aimant effectivement mutuellement, personne ne sera privé de recevoir l'affection, l'amour qui se doit d'être donné et aussi reçu. Donc, quatrième point, un amour qui est si simple qu'il n'a pas besoin d'être défini ou délimité. Aime, aime davantage, aime encore plus, aime encore mieux que ce que tu as fait jusqu'à présent. Le point numéro 5, et on le retrouve dans 1 Jean au chapitre 3 et le verset 18. Regardons ce qui nous est écrit. 1 Jean chapitre 3, le verset 18 nous dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. L'amour que nous sommes supposés avoir est un amour pratique et un amour praticable. Un amour pratique et un amour praticable. Un amour pratique parce que ça doit se voir de façon pratico-pratique. Dans notre vie de tous les jours, ça doit se voir. C'est pas une énigme qu'on vit devant les gens et là les gens doivent se demander qu'est-ce que Florent est en train de faire. Non, Florent est en train de manifester un amour pratique, tangible, qui est visible aux yeux des gens. Mais comment cet amour peut-il être visible? Il est visible avec nos actions. Il y a des gens qui aiment beaucoup parler, qui parlent régulièrement de l'amour. On a eu de grands poètes dans toutes les époques de l'humanité, dans toutes les langues. J'en ai étudié plusieurs à une autre époque, lorsque j'étais au lycée, au collège. On a étudié plein de poèmes qui ont été écrits sur l'amour. Mais c'est une chose de proclamer un fait et c'est une chose d'accomplir ce fait. L'amour que les gens vont voir et par lesquels ou par lequel les gens vont nous définir effectivement comme disciples de Christ, c'est à cause de l'amour que nous manifestons par des actions. L'amour impose des actions. L'amour mutuel va impliquer ou va imposer des actions mutuellement dans le corps de Christ. Je pose une action à ton égard par amour, et toi aussi par amour, tu poses une action à mon égard. En tant qu'enfant de Dieu, on doit être capable de passer de la théorie du texte à la praticité du texte. Être capable de passer des grands discours, des beaux discours, des beaux versets qui nous parlent de l'amour, à la pratique usuelle, à la pratique, encore là, pratico-pratique de l'amour. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux témoigner de choses que tu as fait par amour pour ton frère et pour ta sœur? Est-ce que tu es capable de dire aujourd'hui, voici quel geste j'ai posé? Si tu n'es pas capable de le définir, si tu n'es pas capable toi-même de voir les actions que tu aurais pu poser par amour, il risque d'être bien difficile pour le badaud qui te regardait, pour l'inconverti, pour le non-croyant qui te regardait, de remarquer l'amour que tu auras témoigné envers ton frère et ta sœur parce que tes actions n'étaient pas limpides et n'étaient pas claires. Ici, on va nous parler dans le verset 18 de 1 Jean que ce soit des actions et en vérité. Et j'aime qu'il rajoute « en vérité » pour que notre amour ne soit pas hypocrite, que ce ne soit ni de belles paroles, ni simplement de belles actions, mais que ce soit des actions et des paroles qui sont empreintes de la vérité. Si Dieu te regarde aujourd'hui, et Dieu effectivement te regarde, et lorsqu'il te demande quelles sont les actions que tu as posées par amour aujourd'hui, es-tu capable de définir certaines de ces actions? Et lui, est-il capable de mettre son sceau d'approbation lorsque tu dis que tu as aimé et que tu as aimé véritablement? Est-il capable de mettre son sceau d'approbation sur les actions que tu as offertes en témoignage aux non-croyants, aux inconvertis, comme étant de l'amour factuel, de l'amour pratico-pratique? Le Seigneur est-il capable de dire « j'ai jugé non seulement l'action, mais j'ai jugé la motivation aussi, et elle était sincère, elle était véridique, elle était véritable dans son désir, dans ce qui émanait, ça venait effectivement d'amour. » Donc, cinquième point, un amour qui est pratique, qui est praticable, un amour qui impose des actions. Dernier point pour ce soir, un amour qui est aussi quantifiable, un amour qu'on peut quantifier. Regardons dans Jean 15, le verset 13. Jean 15, verset 13. Ou on peut même commencer au verset 12. « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jésus est en train de dire, voici un commandement nouveau que je vous donne. Voici une instruction que je vous donne. Voici ce que je veux que vous mettiez en pratique. Et cette mise en pratique commence par le fait de donner sa vie pour ses amis. Donner ta vie pour tes amis. Mettre ta vie au service du corps de Christ. Mettre ta vie au service de ton frère et de ta sœur. Et lorsqu'on regarde dans Jean, dans 1 Jean au chapitre 3 et le verset 16, 1 Jean chapitre 3, le verset 16, qui nous dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » Il y a un point de départ à une chose lorsqu'elle est quantifiable. Et il y a un point ultime à une chose lorsqu'elle est quantifiable. Et au sujet de l'amour, le point de départ que Jésus donnait comme exemple et qu'il donnait comme recommandation, c'était de donner sa vie pour ses frères. Le point de départ, donner sa vie pour ses frères. Mais une fois que tu as donné ta vie pour tes frères, quel est le point ultime? Le point ultime est très simple. Encore une fois, donner sa vie pour ses frères. En fait, le commencement de notre service à Dieu est de donner notre vie pour nos frères. Et le point ultime d'une carrière dans le corps de Christ est encore de donner sa vie pour ses frères. Jésus a vécu une vie complète, vouée à l'autre, vouée à l'Église, vouée à ses contemporains. Nous aussi, nous devons mener une vie dans un même sens, où notre point de départ, c'est de donner notre vie pour nos frères, de vivre une existence vouée à l'Église, vouée aux frères et aux sœurs, et comme point ultime, encore là, donner notre vie pour ses frères. En fait, c'est un mode de vie que Jésus nous enseigne. Ce commandement, aimez-vous les uns les autres, c'est pas une chose qui est ponctuelle. C'est pas une chose qui est aléatoire de comment je me sens, de la saison, de l'époque que je vis, de mes ressources, ou de ce qui m'entoure, de mon environnement. Lorsqu'on parle d'aimer nos frères, de manifester notre amour pour nos frères et nos sœurs, c'est un mode de vie. La chrétienté, bien entendu, n'est pas un mode de vie. La chrétienté est un abandon de notre vie entre les mains de Christ. Mais cette chrétienté va se pratiquer avec des actions, va se pratiquer avec des faits. Et cette chrétienté va s'illustrer par une vie qui est menée par amour pour nos frères et pour nos sœurs. Un message important pour toi et pour moi aujourd'hui. Vous savez, lorsque quelqu'un s'apprête à mourir, ses paroles nous semblent toujours plus importantes. J'ai eu l'occasion de côtoyer différentes personnes qui sont parties dans la présence du Seigneur. J'ai assurément accompagné certaines d'entre elles dans les derniers instants, dans les derniers moments. Et dans ce parcours-là, chacune avait son bilan de la vie à me donner. Je pense particulièrement à celui qui a agi pour moi comme père spirituel, le pasteur Fontalvaux. Les dernières semaines, j'ai passé beaucoup de temps à sa présence, tout simplement à aller le visiter et à retirer de lui tout ce qu'il avait à me donner. Parfois, c'était tout simplement un conseil pour un domaine, pour un sujet, pour un frère, pour une sœur. Mais ces paroles, maintenant qu'il est parti dans la gloire et dans la présence du Seigneur, ces paroles me sont chères. Alors imaginez, dans les dernières recommandations que Jésus fait à ses disciples, ce dernier repas avant sa mort, Jésus va parler de s'aimer les uns les autres, de manifester de l'amour les uns envers les autres. Les dernières paroles, si effectivement ce sont les paroles importantes qui sortent de la bouche de quelqu'un, assurément, ce discours de Jésus pour l'Église, ce discours de Jésus pour ses proches, ses disciples, ce discours de Jésus pour toi et pour moi, devrait être un des plus importants, un des enseignements les plus importants, une des exhortations les plus importantes pour notre vie, effectivement, d'aimer nos frères et nos sœurs. Lorsque Jésus va envoyer ses disciples pour être des témoins pour lui en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, ce témoignage-là, on doit comprendre qu'il n'était pas simplement que des paroles. Ce témoignage-là était aussi des actions, et c'était des actions empreintes d'amour. Lorsque dans l'église d'Antioche, on nous dit que c'est à Antioche que pour la toute première fois, on a appelé des disciples de Jésus des chrétiens. J'ose croire que ce qui a frappé l'auditoire, ce qui a frappé les habitants d'Antioche qui regardaient ces disciples de Jésus vivre les uns avec les autres, j'espère que ce qui les a frappés pour les amener à les appeler des chrétiens, c'était l'amour chrétien, l'amour de Christ qu'ils manifestaient les uns envers les autres. La Bible nous dit que dans l'Église du Nouveau Testament, il n'y avait aucun indigent. Pourquoi? Parce qu'on prenait soin les uns des autres. Ça veut donc dire que les besoins des uns et des autres étaient pris en compte. Lorsque une faction ou un groupe ou un secteur de l'Église se sentait brimé, on a été capable d'amener ça aux disciples pour que la situation soit résolue, pour faire face à la situation et qu'on règle la situation. Pourquoi? Parce que l'important dans le corps de Christ était que rien ne vienne briser ces liens que Dieu avait établis au sein de son corps. Il est important encore pour toi et pour moi aujourd'hui de comprendre que l'amour que nous manifestons envers nos frères et nos sœurs reste le témoignage le plus concret que nous offrons à notre génération. Et je crains que lorsqu'on sera amené à faire le bilan de ces derniers mois, lorsqu'on sera amené à faire le bilan de ce qui se passe depuis le début de la pandémie, qu'on ait à demander pardon sérieusement à Dieu, d'avoir maltraité nos frères, d'avoir mal parlé sur nos frères. Sous prétexte pour se laver la conscience, on a commencé à parler de la vraie et de la fausse Église. Avant la pandémie, on était tous de la vraie Église. Et puis maintenant, par rapport à comment on se positionne, par rapport à cette pandémie, voilà maintenant on va se laver la conscience en pouvant critiquer notre frère, parce que lui, ce n'est pas vraiment la vraie Église. Je pense que dans quelques mois, on aura effectivement beaucoup, plusieurs, on aura à demander pardon à Dieu. Alors mon frère, ma sœur, prions ce soir. Pour ce qui te concerne à toi et ce qui me concerne à moi. Probablement qu'on ne peut pas changer les autres, mais on peut se changer soi-même. On peut commencer à travailler sur soi-même. Alors prions effectivement d'être des agents de l'amour de Dieu, de manifester cet amour afin que lorsqu'on nous regarde, on puisse dire « Voilà un disciple de Jésus » parce qu'il aime vraiment son frère. Seigneur, pardon. Pardon d'avoir méprisé ce commandement qui reste encore d'actualité aujourd'hui. Commandement qui n'a pas flétri. Commandement qui ne s'est pas asséché. Commandement qui n'est pas venu à terme. Commandement que toi-même tu as appliqué dans ta propre vie en tant qu'homme ici-bas, en mettant tes frères et tes sœurs avant toi, en mettant ton prochain avant toi. Et dans cette dernière journée avant ton arrestation, tu t'es abaissé pour prendre soin de tes propres disciples comme si tu étais leur serviteur, en leur disant « Avez-vous compris ce que j'ai fait pour vous ?» Seigneur, encore aujourd'hui, tu peux nous demander si on a réellement compris. Avons-nous réellement compris l'amour qui est supposé nous habiter ? L'amour que nous sommes supposés témoigner les uns envers les autres. Pardonne-nous, Seigneur. Et permets-nous, Seigneur, de mieux faire. Pardonne-nous, Seigneur, pour le mauvais témoignage que nous avons été par manque d'amour. Et permets-nous de mieux faire. Pardonne-nous, Seigneur, pour ce témoignage contraire qu'on a donné à ceux qui ne te connaissaient pas. Et accorde-nous l'opportunité de nous reprendre. Afin, Seigneur, qu'il soit dit de nous, comme il a été dit de ces premiers chrétiens à Antioche, voilà des chrétiens. Seigneur, que ton amour soit palpable, tangible, et manifesté de façon concrète entre chacun d'entre nous. Seigneur, que je ne m'économise pas dans l'amour manifesté envers autrui. Que je n'essaie pas de me protéger, mais que je puisse effectivement donner ma vie comme toi tu as donné la tienne pour tes frères et tes sœurs. Seigneur, il n'y a effectivement pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Seigneur, donner notre vie n'est pas tout simplement mourir à la place de quelqu'un. Mais donner notre vie, c'est aussi vivre notre vie avec comme première pensée notre prochain. Alors aide-nous, Seigneur, à mener cette vie que tu désires que nous menions. Demain, Seigneur, lorsque on va se réveiller avec toutes ces heures devant nous à meubler, avec toutes ces occasions que nous aurons devant nous, permets-nous, Seigneur, de mieux faire qu'aujourd'hui. Permets-nous, Seigneur, de mieux aimer. Permets-nous que notre amour soit encore plus sincère. Et Seigneur, si on avait de la misère à aimer, viens, Seigneur, nous laver. Viens nous changer. Viens nous purifier. Lave nos cœurs qui sont méchants. Lave nos cœurs qui manquent de pardon. Lave nos cœurs, Seigneur, qui sont empreints de rancœur ou de rancune. Afin que dès demain matin, Seigneur, nous puissions aimer en ayant pris cet engagement d'être fidèles à ce commandement que tu nous donnes. À ce commandement que tu as illustré pour nous. À ce commandement par lequel tu veux que nous vivions, cet appel à s'aimer les uns les autres. Nous scellons cette prière par ton sang précieux. On prie, Seigneur, que ce qui a été partagé ce soir ne soit aucunement corrompu, aucunement volé par l'ennemi. Et nous prions, Seigneur, de ne pas penser à tel frère ou à telle sœur qui aurait dû entendre cet enseignement ce soir. Cet enseignement, Seigneur, c'est pour moi. Cet enseignement, Seigneur, nous le recevons pour nous-mêmes. Puisque nous sommes les seuls maîtres sur nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer le comportement de ceux qui nous entourent. Nous pouvons seulement décider que pour nous-mêmes, nous ne ferons plus la même chose demain. Josué qui disait, « Faites ce que vous voulez faire. Quant à moi et à ma famille, nous servirons l'Éternel. Seigneur, pour moi, je te servirai. Et demain, je te servirai mieux que je ne t'ai servi aujourd'hui. Demain, Seigneur, je témoignerai de ton amour mieux que j'en ai témoigné aujourd'hui. » Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors pour terminer ce soir, on est presque arrivé à 20h, 19h59. Simplement vous rappeler que les inscriptions ont cours. Il y a une première vague dans les prochaines minutes ou dans les prochaines heures qui va recevoir soit un message texte, un message courriel ou un appel pour confirmer qu'on a reçu votre demande d'inscription. Pour les autres, ce sera vendredi, mais ne tardez pas. Donc, comment vous inscrire? Soit en appelant au bureau, au secrétariat de l'Église, vous connaissez le numéro, ou en écrivant à notre adresse courriel. Et là encore, vous la connaissez bien, secrétariat EAJC, en un seul mot, @commercial.gmail.com. Alors, ne tardez pas à vous inscrire. Comme on a dit, demain matin, fort probablement que la bénédiction matinale n'aura pas lieu. J'ai un petit traitement, rien de grave, un truc régulier que je dois passer demain matin. Donc, on va certainement se retrouver strictement vendredi matin pour notre prochain temps au niveau de la bénédiction matinale. Et puis, de surcroît cela, bien entendu, vendredi soir pour notre temps de prière et d'intercession. Sur ce, voici ce que Jésus nous a dit. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que le Seigneur dit à son Église. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de soirée à tous. Au revoir tout le monde.